Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les Américains vont-ils commencer leur retrait d'Afghanistan ? Un accord trouvé avec les talibans et présenté hier le prévoit, mais un attentat est déjà venu endeuiller Kaboul. Nous irons sur place dans un instant. Nous rejoindrons ensuite notre correspondant à Londres, où l'opposition prépare une motion contre Boris Johnson et la possibilité de sortir de l'Union européenne sans accord. Les débats débutent aujourd'hui au Parlement. Et puis un Grenelle contre les violences faites aux femmes est organisé par le gouvernement français. Alors qu'un 101e féminicide a été comptabilisé dans le pays. Présentation dans cette édition, présentation de ce Grenelle. L'accord sera-t-il viable ? À peine présenté en tout cas, un attentat a malgré tout été commis à Kaboul, faisant 16 morts et une centaine de blessés hier. Deux heures plus tôt, les Américains et les talibans s'étaient pourtant mis d'accord sur une sortie du conflit en Afghanistan. Les États-Unis se sont notamment engagés à retirer leurs forces de 5 bases militaires, Sonia Ghezali.
Plus de 5000 soldats américains sur les 14 000 déployés quitteront le sol afghan dans les 20 semaines qui suivront la signature de l'accord. Le retrait des troupes se poursuivra de façon progressive à la condition que les talibans respectent leurs engagements, dont celui de combattre le terrorisme sur son sol. Le groupe d'insurgés s'engage ainsi à couper tout lien avec Al-Qaïda. C'est le contenu de l'accord de principe auquel sont parvenus talibans et américains réunis à Doha au Qatar pour le 9e round des discussions. Cela fait 10 mois que les deux parties sont engagées dans des négociations sans la présence d'aucun représentant du gouvernement afghan. Celui-ci a eu connaissance de l'accord de principe, a indiqué l'émissaire américain, qui affirme que des négociations intra-afghanes commenceront dès la signature de l'accord après validation du président américain. Celle-ci pourrait avoir lieu à Oslo, la capitale norvégienne. À Kaboul, le porte-parole d'Ashraf Ghani a déclaré qu'il était très difficile de faire confiance aux talibans. Quelques heures plus tard, la capitale afghane était secouée par une énorme explosion. Un camion-citerne de carburant sur lequel était posée une bombe a explosé près d'un complexe fortifié où résident des étrangers. Les envahisseurs et leurs mercenaires étaient visés, écrit l'un des porte-paroles des talibans sur son compte Twitter, en revendiquant l'attaque. Le complexe avait déjà été pris pour cible en janvier dernier. 4 personnes avaient été tuées, plus de 90 autres blessées. Avant cela, le complexe avait été attaqué en 2003, en 2012 et en 2014. Chaque attaque avait été revendiquée par les talibans.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. Le chef du Hezbollah libanais assure que son mouvement n'a plus de ligne rouge dans sa confrontation avec Israël. Il menace ainsi de frapper l'État hébreu en profondeur dans son territoire. Avant-hier, une attaque de missiles anti-char menée par ses combattants dans le nord d'Israël avait provoqué une réplique d'Israël, touchant cette fois le sud du Liban. Le Hezbollah a-t-il intérêt à une guerre contre Israël ? Voici la question que posera Julie Gacon dans les enjeux internationaux avec son invité. Ce sera à 6h45 tout à l'heure. Avant cela, tournons-nous vers Londres où les débats parlementaires reprennent aujourd'hui avec une motion débattue par les députés pour faire tomber le gouvernement de Boris Johnson. L'opposition veut empêcher que le Royaume-Uni ne sorte de l'Union européenne le 31 octobre sans accord. Pour répondre à ces députés, Boris Johnson menace de déclencher des élections législatives anticipées. Bref, les deux camps se font face, Antoine Gignot.
C'est une rentrée aux allures de bras de fer titanesque, avec d'un côté les travaillistes, les libéraux démocrates, les verts, les indépendantistes écossais, quelques élus sans étiquette. Ils veulent déposer ensemble un projet de loi pour empêcher le Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne sans aucun accord. De l'autre côté, Boris Johnson et les conservateurs eurosceptiques, eux, continuent de dire que le Brexit aura lieu le 31 octobre, quoi qu'il arrive, et ils menacent, s'ils sont mis en difficulté par l'opposition, de dissoudre le Parlement en déclenchant des législatives anticipées qui plongeraient le pays dans une nouvelle bataille politique. Le Premier ministre ne veut pas provoquer de nouvelles élections, explique sous couvert d'anonymat un responsable du gouvernement, mais tout dépendra, dit-il, du choix des députés. Une phrase aux allures de menace destinée aux élus conservateurs. Ils sont une quinzaine à s'opposer au gouvernement. Boris Johnson les a déjà prévenus. Tous ceux qui voteront contre l'équipe gouvernementale seront purement et simplement exclus du parti.
En Italie, la parole est aux militants. Le parti populiste des 5 étoiles demande à ses membres de soutenir la formation d'une coalition inédite avec le parti démocrate de centre-gauche. Les adhérents sont donc appelés à se prononcer sur Internet aujourd'hui par un vote. Les sympathisants du parti démocrate, eux, l'ont déjà approuvé cette coalition à 69%. Le bilan est toujours provisoire. Aux Bahamas, l'ouragan Dorian a fait 5 morts, arrachant des toits et des lignes électriques, inondant des maisons. L'ouragan stagne pour le moment sur l'ouest de l'archipel. Il pourrait épargner une partie de la Floride aux États-Unis. Depuis le 1er janvier en France, 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon. Le dernier meurtre remonte à avant-hier dans le Tarn. Pour lutter contre ces violences faites aux femmes, le gouvernement lance aujourd'hui un Grenelle, un rendez-vous qui va durer 3 mois au total et qui regroupera plusieurs ministres et associations. Il se veut interdisciplinaire, Fiona Mogadam.
Il va y avoir 3 axes de travail. Prévenir, prendre en charge, punir. D'où la présence aujourd'hui non seulement du Premier ministre et de la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, mais aussi de la garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation ou encore de la ministre du Travail notamment, ainsi que de 80 responsables associatifs, policiers, magistrats, avocats ou encore agents publics. Une prise en charge de la lutte contre ces violences qui se veut globale, du point de vue des territoires également, car en parallèle, une centaine de grenelles locaux est organisée sous la houlette des préfets. Le gouvernement entend ainsi mener une action coordonnée. La suite du Grenelle s'articulera en 10 groupes de travail pour aboutir à des mesures le 25 novembre prochain, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais les premières mesures d'urgence seront annoncées dès aujourd'hui. La semaine dernière, Marlène Schiappa s'est déjà engagée à créer un fonds spécial contre les féminicides. 1 million d'euros distribué à des petites associations qui manquent de moyens. Une somme pour le moment bien loin des 500 à 1 milliard d'euros que réclame l'ensemble des associations de lutte contre les violences conjugales.
C'était Fiona Mogadam pour France Culture. L'Afghan d'une trentaine d'années soupçonné d'avoir tué samedi une personne et blessé 8 autres dans une attaque au couteau à Villeurbanne a été mis en examen. Il est accusé d'assassinat et tentative d'assassinat. Le juge des libertés et de la détention a été saisi en vue de son placement en détention provisoire. Et revoilà les 80 km/h à l'Assemblée nationale. Imposée sur les 400 000 km de routes secondaires en France, cette limitation de vitesse va finalement être assouplie. Les départements, en tout cas, pourront revenir à 90 km/h. Il faut pour cela une loi, la loi LOM, d'orientation des mobilités. Elle est en commission à l'Assemblée nationale depuis hier, avec donc un nouvel article. Les associations de sécurité routière le critiquent, mais c'était nécessaire selon Jean-Marc Zulesi, député de la majorité dans les Bouches-du-Rhône. Il s'en explique un an après la limitation de vitesse.
Alors il y a eu des bilans, le bilan est plutôt positif jusqu'à maintenant, sauf qu'il y a des endroits où effectivement il n'y a pas d'accident et qu'il y a peut-être matière à ce que la limitation de vitesse reste à 90 km/h. Face à cet argument-là, on donne cette liberté aujourd'hui d'assouplir la mesure des 80 km/h. Et donc, ce que nous proposons, ce que nous avons proposé, ce qui a été voté, c'est de laisser la liberté au président de conseil de département, mais aussi des maires, d'assouplir la mesure des 80 km/h en s'appuyant sur l'avis du conseil départemental de sécurité routière. Et ça permet en fin de compte d'argumenter le choix, in fine, du président du conseil de département ou alors du maire en question.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg, dont vous pouvez réécouter le dossier consacré aux 80 km/h. Il était diffusé hier soir dans le journal de 18h sur France Culture, journal disponible sur Internet. Les splendeurs de l'Égypte fascinent toujours autant le public français. Preuve en est, l'exposition la plus visitée du pays devient l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à la Grande Halle de la Villette. Prévue jusqu'au 22 septembre, elle a déjà rassemblé plus d'1 370 000 visiteurs. C'est 150 000 de plus qu'en 1967 au Petit Palais, Stéphane Capron.
Beaucoup de visiteurs s'y sont pris plusieurs mois à l'avance pour réserver leur ticket. La fréquentation est à la hauteur de l'événement en 1967. 50 pièces avaient été présentées au public. Il y en avait 3 fois plus pour cette ultime exposition. Car c'est la dernière fois que ces trésors découverts en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter parcourent le monde avant de rester définitivement en Égypte. Et c'est pour Thierry Vincenti, le directeur général d'IMG France, l'organisateur de l'exposition, l'une des raisons de ce succès populaire.
Grâce au grand musée égyptien qui est en train d'être construit sur le plateau de Gizeh, face aux pyramides, il y a cette volonté de pouvoir effectivement accueillir l'ensemble de ces pièces à la fin de la tournée. Donc cette idée que c'est peut-être la dernière fois qu'on pouvait les voir en tournée. Donc je pense que ça a participé véritablement au succès incroyable. Il y a quand même une offre sur Paris d'exposition qui est exceptionnelle. On se disait, on espérait pouvoir atteindre le million, battre ce record et atteindre ce résultat, c'est juste exceptionnel.
Les expositions Toutankhamon version 2019 et 1967 battent à plat de couture les grandes rétrospectives de peinture, reléguant l'Expo Monet de 2010 au Grand Palais à la troisième place avec 913 000 visiteurs.
Toutankhamon à Paris, c'est donc jusqu'au 22 septembre. La météo, rapidement, de ce mardi, pour le micro, c'est assez simple. Le soleil va briller partout. 15 degrés à Rennes ce matin, 19 à Paris, 22 à Lyon, 28 degrés à Marseille dans la matinée.